La belle ses ondes.
La belle ses ondes.
C'est sur Radio La.
Radio La.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à l'écoute de la belle ses ondes sur les ondes de Radio La sur le 106.6 FM. Adieu le fil et sur les ondes du web grâce à l'appli Radiola partout ailleurs. Sur Radiola, on vous propose de vous retrouver tous les matins ou presque à 9h30 avec les invités qui font l'actualité culturelle et sociale du pays de Dieulfi Bourdeau. Ce matin, on se pose sur le dos des abeilles avec un grand passionné apiculteur d'apiculture et de ruches qui nous vient de Comps. À Comps, juste en dessous de la magnifique église romane, la famille Rossetti donne libre cours à sa passion, et ce, de père en fils, celle de collectionner les ruches du monde, venant évidemment du monde entier. Plus de 200 modèles sont à visiter au musée de l'abeille et des ruches du monde. Luc Rossetti, bonjour.
Bonjour.
Alors attendez, j'ai allumé le mauvais micro, ça commence mal. Voilà, qu'on entende un peu votre voix. Merci
bonjour.
D'être venu ce matin au studio de Radio La. Alors je le disais, c'est une collection de ruches, une collection familiale. Comment ça a commencé ?
Ben, c'est mon père qui, depuis plus de 50 ans, a soigneusement collectionné tous les modèles de ruches qu'il pouvait rencontrer sur son passage.
Et d'où lui venait, est-ce que vous le savez, d'où lui venait cette passion-là, cette envie et cette collectionnite ?
Alors ça, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas forcément. Hein. C'est une passion, et les passions, ben, ma foi, ça, c'est leur façon d'opérer. Hein.
Le musée a été fondé, enfin vous avez fondé le musée dans ce bâtiment tout en long, rénové un petit peu en 2007. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de transmettre cette passion ?
Ben, c'est déjà le fait de posséder une collection exceptionnelle et donc c'était bien important de la mettre à disposition du public.
Et donc vous avez rénové un poulailler, c'est ça, à Comps, comment ça s'est passé ?
Ben, écoutez, comment ça s'est passé ? Ben, des travaux, et puis ben, ça a permis de faire un petit peu une salle sur mesure,
ouais.
En gardant un côté terre battue qui est pas mal pour exposer des choses comme des ruches. Voilà.
Alors le miel, c'est quelque chose qu'on retrouve partout sur la planète. Oui, non ?
Presque.
Presque.
Il faut quand même qu'il y ait des fleurs.
Il faut qu'il y ait des fleurs, bien sûr.
Pas de fleurs,
pas dans les déserts.
D'abeilles.
Mais la façon de le récolter dans les ruches, toujours ingénieuses, diffère selon les pays. Quelles sont les grandes particularités qu'on va retrouver dans le fait de récolter ce miel ?
Alors, ben, y a quand même des grandes aires culturelles. Il y a aussi des époques qui ont fait que, ben, on a révolutionné un petit peu les pratiques. Il y a trois grandes. Les premières ruches, c'était des troncs d'arbres creux. Enfin, c'était l'habitat naturel de l'abeille. Donc l'homme, il a copié ce que l'abeille faisait à l'état sauvage. Après, il l'a fait de façon très différente en fonction de grandes aires culturelles, je disais. En Afrique noire, par exemple, elles sont installées dans des arbres, parfois très hauts. Ensuite, chez les musulmans, tout autour de la mer Méditerranée, on va disposer ces troncs de façon couchée, au lieu de les mettre en position verticale, on va dire naturelle de l'arbre, dans l'Europe du Nord.
D'accord, donc on va retrouver des aires culturelles qui vont dépendre un petit peu des matériaux qu'on va trouver sur place, peut-être ?
Alors non, ça c'est pas des matériaux, ça c'est justement des techniques de position.
D'accord.
Qui vont être globalement respectées. Alors après il y aura toujours des contre-exemples, hein. On peut pas faire de... Enfin, l'homme fait ce qu'il veut. C'est plutôt qu'il y a une culture. Après les matériaux utilisés, ben, c'est ceux qui sont disponibles. Donc là c'est vraiment, si on a des bons bois, ben, on va pouvoir les faire en bois. S'il n'y a pas de bois, ben, on va faire des vanneries pour les remplacer. Ou des assemblages avec de l'argile, des roseaux, enfin là... L'homme imaginatif, hein, et utilise ses savoir-faire et forcément les matériaux disponibles.
Alors, il y a beaucoup de ruches en vannerie. Comment ça se passe ? Quelles sont les caractéristiques de ce matériau ? Est-ce que c'est typiquement... ça se faisait dans la Drôme, par exemple ?
Ça s'est fait un petit peu partout. Ah oui. C'est très souvent de la paille de seigle. Souvent, elle était reliée avec de l'écorce de ronce. Après, c'est les techniques de vannerie, elles n'étaient pas exclusivement apicoles, puisque à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'autres récipients. Il n'y avait pas de plastique, donc on faisait avec ce que la nature nous offrait.
Est-ce qu'on peut juste repartir un peu du début, expliquer le fonctionnement d'une ruche?
Alors là, ça va être compliqué.
Ah, c'est vrai.
Il y a beaucoup de choses à dire.
Non.
Là, il nous faudrait un petit peu de temps pour parler du fonctionnement d'une ruche.
Non, mais en gros, comment fonctionne une ruche? Quelle est l'idée et comment ça se passe? Parce qu'on peut s'imaginer ces troncs creux, donc, qui c'est un petit peu la ruche initiale, la plus simple. Quelle est l'idée de la ruche? Comment ça fonctionne?
Eh bien, ça fonctionne au niveau de ça, on va dire, de son anatomie. On va avoir une construction qui va se faire par une sécrétion de cire des abeilles qui vont construire des rayons. Et la seule chose qui va être régulière, c'est la taille des alvéoles qui correspond à la taille de l'abeille, ainsi que les passages entre deux rayons.
D'accord.
Après, si vous êtes sur des troncs, donc avec ces formes rondes, on va suivre un peu les bords, on va arriver à faire des formes qui seront jamais les mêmes, même dans une même ruche. Si on enlève le bâti, elles vont en faire un qui ne ressemblera pas au premier, mais qui sont des choses assez magnifiques, quoi. C'est justement parce que c'est très irrégulier, ça tourne, c'est plus haut à des endroits, et puis c'est évolutif.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que si les abeilles manquent de place, parce si elles ont du miel en trop, il va falloir qu'elles créent de nouveaux rayons. Plus la ruche, avec la croissance de la ruche, on a croissance du bâti aussi.
Et comment ça fonctionne, le tronc couché?
Alors, ça fonctionne un peu pareil. Il faut se représenter une ruche comme une boule chauffée dans laquelle les abeilles se reproduisent. Une boule chauffée à 35 degrés. Donc, j'aime bien faire toucher justement les ruches aux gens et de comparer cette partie zone de reproduction des abeilles avec une partie miel qui, elle, va être froide.
D'accord.
Par rapport, parce qu'elle n'est pas chauffée à 35 degrés, sa température n'est pas régulée, le miel se débrouille tout seul. Et donc cette boule chauffée va être, enveloppée dans par une petite couverture de pollen. Donc autour de cette zone de ponte qui va permettre de l'alimenter justement, ce sont les protéines qui vont assurer la croissance des jeunes abeilles. Et au-dessus de cette boule chauffée, on va avoir une cloche de miel. Donc, il va se retrouver en sécurité. Justement, on va essayer de mettre l'entrée de la ruche à l'opposé de cette cloche de miel pour que, pour y accéder, il fasse traverser la colonie.
Voilà, qu'on n'ait pas besoin de les déranger trop ou alors qu'on trouve un autre accès, c'est ça?
Alors, justement, il y a ce système de double porte qui va dire qu'il y a une entrée pour les abeilles d'un côté de la ruche et une porte pour l'apiculteur à l'opposé de cette entrée, ce qui va permettre d'arriver directement du côté du miel. Alors ça peut être au bas ou avant-arrière.
Voilà, c'est ça, selon ça dépend de l'orientation des ruches. Et l'arrivée des cadres, ça a été un grand changement dans les ruches, l'invention du fait d'avoir des cadres qu'on puisse retirer. Qu'est-ce que ça...
Alors, il y a eu une première invention quand même avant le cadre qui était de couper les ruches en deux parties, ce qui permettait justement de récupérer un étage.
D'accord.
Toujours sur des ruches avec des constructions sauvages, on va dire, faites par les abeilles comme elles l'entendaient. Et en découpant donc ces deux parties, on pouvait prélever, on faisait le partage, on définissait un partage et donc l'apiculteur prenait sa partie. Ensuite, l'introduction de cadres, par contre, va permettre beaucoup d'autres opérations, c'est-à-dire qu'on va pouvoir manipuler les morceaux de ruche. On ne pouvait pas faire avant, puisqu'il fallait les couper, donc c'était pas... Une fois qu'ils étaient coupés, on ne pouvait pas vraiment les remettre. Alors que là, on va pouvoir voir si une ruche est en bonne santé, on va pouvoir faire tout un tas d'opérations. Partager une ruche en deux, rassembler deux ruches, centrifuger le miel et réutiliser les cires dans lesquelles était ce miel. Qu'on va pouvoir rendre aux abeilles.
Ah d'accord, on leur redonne les cires en question.
On leur rend leur construction quelque part dans laquelle elles vont pouvoir refaire le miel tout de suite.
Ok, très bien. Je vous propose, Luc, une petite pause musicale, parce que des chansons sur les abeilles, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si vous, vous en connaissez beaucoup.
Je ne vous en chanterai pas.
D'accord. Il y en a une, c'est Henri Salvador qui la propose, et c'est l'abeille et le papillon. Je vous propose d'écouter ça tout de suite.
Une abeille un jour de printemps voletait gaiement sur la rose bruyère en fleurs dont si douce est l'odeur. Au pied de la bruyère en fleurs, une pauvre chenille en pleurs regardait voler dans le ciel la petite et son miel. Et la pauvre chenille en sanglots lui disait « Je vous aime ». Mais l'abeille là-haut, tout là-haut, n'entendait pas un mot. Cependant que les jours passaient, la chenille toujours pleurait, et l'abeille volait gaiement dans le ciel du printemps. Après avoir pleuré jusqu'à la nuit, notre chenille s'endormit, mais le soleil de ses rayons vint éveiller un papillon. Et sur une bruyère en pleurs, notre abeille a donné son cœur, tandis que chantaient les grillons aux petits papillons. Par les bois, les champs et les jardins, se frôlant de leurs ailes, ils butinent la rose et le thym dans l'air frais du matin. Ma petite histoire est finie, elle montre que dans la vie, quand on est guidé par l'amour, on triomphe toujours. On triomphe toujours. On triomphe toujours.
La poésie d'Henri Salvador, l'abeille et le papillon. Vous êtes sur Radio La, à l'écoute de la belle saison avec Luc Rossetti, collectionneur de ruches. À Comps, au musée de l'abeille vivante, à visiter cet été si vous n'y êtes pas encore allé. Luc, dont on disait de nombreuses ruches, je crois que plus de 200, c'est ça, du monde entier.
Ouais, 250, même, ouais, je
250,
pense.
250, et des ruches aussi anciennes. Est-ce que vous êtes allé les chercher chaque ruche vous-même ou votre père? Est-ce que vous en récoltez encore?
Alors, c'est essentiellement mon père qui a parcouru alors toutes les régions de France. À chaque fois, on en a cherché justement des vieux apiculteurs, puisque c'est un patrimoine qui est quand même voué à, enfin, qui disparaît de jour en jour. Des fois, des objets que si on ne sait pas que c'est une ruche, c'est pas toujours évident de s'en rendre compte, je pense, pour quelqu'un qui possède un objet comme ça. S'il y a des traces de cire dedans, on va dire que ça aide. Si elle est neuve, un vieux modèle neuf, je pense que ce n'est pas évident de savoir que c'en est une.
Quels sont les matériaux utilisés? Donc, je pense qu'il y a des ruches beaucoup plus sophistiquées, évidemment, que le tronc dont on parlait. Quels sont les matériaux les plus fous et les plus insolites que vous ayez pu rencontrer?
Alors le tronc, c'est l'idée. Après,
Il
peut être fait en terre cuite, il peut être fait, je vous dis, avec des ronces tressées recouvertes d'argile, de bouse de vache, de cendre. Ça peut être des herbes de brousse. Alors ça peut être réellement un vrai tronc.
Mm-hmm.
Mais qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ça peut être de la pierre.
Ah oui.
Certains endroits.
Taillé.
Alors du tuf, par exemple, qui est utilisé dans les Pouilles en Italie, parce que c'est une pierre qui est isolante et relativement légère.
Qu'est-ce qu'on va trouver comme ruche dans la Drôme, traditionnellement?
Alors dans la Drôme, on a un modèle assez intéressant, mais qui est un modèle des années 30, qui a deux particularités. La première, c'est d'être en forme de V, on va dire, donc avec un fond de ruche qui est en pente, ce qui va permettre aux cadavres, à toutes les saletés générées par la ruche, de tomber vers le fond et d'être évacuées plus facilement. Donc à l'époque, on appelait ça des ruches automatiques. Et la grosse particularité, alors ça, il y en a quelques-unes, et la grosse particularité de cette ruche dromoise, c'est d'avoir des cadres en triangle que l'on peut bouquiner comme un livre pour visiter la ruche. Donc on va tourner les pages, faire bouger les cadres en les laissant dans la ruche.
Les ruches sont en activité, alors on peut en voir dans le musée avec des abeilles vivantes à l'intérieur. Comment on fait pour les observer exactement et comment ça travaille une ruche ?
Alors, j'allais dire qu'on les observe presque mieux qu'en les visitant, puisqu'on ne les dérange pas. Donc, on a une observation de leur activité. Alors, il y a deux ruches vitrées. Une qui est l'imitation d'un tronc d'arbre creux, mais avec un verre bombé, dans lequel il y a un gros bâti sauvage sur lequel je n'interviens pas. Donc, on voit ce que fait l'abeille dans la nature. On a une deuxième petite ruche vitrée qui, elle, est à interpréter comme la tranche du milieu de ce gros bâti.
Ah, d'accord.
Donc une vue en coupe de l'intérieur sur laquelle il y aura le cœur de la ruche. Donc on pourra bien voir cette partie chauffée, cette couverture de pollen et ce miel au-dessus. Et puis on aura les observations fines, on pourra trouver la reine puisqu'elle ne peut pas se cacher dans cette ruche. On la verra toujours. On la verra pendre, on verra sa cour se former autour d'elle.
Comment on la distingue ?
Alors on la distingue parce qu'elle est un petit peu différente des autres, elle est surtout un petit peu plus longue. Et puis je lui mets un petit point rouge, ce qui permet de la trouver plus facilement. Alors ce qui permet aussi en apiculture de connaître son âge, puisqu'on va avoir cinq couleurs qui vont correspondre à des années.
D'accord. Il n'y a toujours qu'une seule reine par ruche ?
Alors, il n'y a toujours qu'une seule reine, à part pendant une période qui va être d'une semaine maximum. En fait, c'est des cas assez exceptionnels.
C'est-à-dire les moments
il vaut mieux se rappeler
où
il n'y a qu'une ruche.
Où ça n'a pas encore été décidé réellement collectivement ?
Non, c'est au moment où on va renouveler une reine, où il va pouvoir y en avoir deux transitoirement.
D'accord.
Le temps qu'on voie laquelle est la meilleure des deux. Le temps qu'elle se fasse féconder, en fait, pour pouvoir comparer les deux reines et se débarrasser de la plus mauvaise.
Ok. C'est un peu dur quand même comme milieu, non, à l'intérieur d'une ruche.
C'est pas dur, c'est fonctionnel. C'est-à-dire que les abeilles, elles sont là, elles ont connu les dinosaures, hein, faut pas l'oublier. Donc elles ont eu le temps de s'adapter quand même à un environnement donné. Et donc c'est tout ce qui est adaptatif qui va permettre de comprendre le fonctionnement des ruches, quoi.
Quelle est la ruche ou le fonctionnement le plus ingénieux que vous ayez pu rencontrer, où là vous vous êtes dit non mais c'est incroyable d'avoir pensé des choses pareilles?
La danse des butineuses reste quelque chose d'assez fantastique, hein, puisque c'est... Alors je fais peut-être une petite parenthèse, ce qui est frustrant chez l'abeille, c'est que beaucoup de ces modes de communication vont se faire à travers des odeurs. Et là, on n'a aucun accès, ça, on ne voit pas.
On ne s'en rend pas compte.
On ne comprend pas, on ne lit pas, on n'a pas accès à ça. Les danses des butineuses, par contre, c'est quelque chose de visuel. Donc, c'est une abeille qui va frétiller d'une certaine façon et expliquer aux autres une adresse très exacte. Alors, ça peut être un lieu de butinage, ça peut être également un tronc d'arbre creux pour aller s'y installer. Donc la précision, elle est redoutable, hein, puisqu'elles vont être capables de se dire à 3 km d'ici, dans la forêt, il y a un tronc d'arbre de creux, allez le visiter. Et elles le trouvent, donc c'est...
Et c'est une invitation à la visite ou carrément à l'installation
Alors là, c'est une proposition.
Ouais,
c'est en fait, on se donne une adresse. Donc c'est partez dans telle direction par rapport au soleil, faites telle distance... Alors la distance, c'est quelque chose de très compliqué à lire, puisque c'est pas quelque chose de métrique, c'est... En fait, elle se donne le nombre d'images contrastées Ça peut dire, par exemple, faut traverser un pré, ensuite vous avez un bout de forêt, ensuite vous avez un lac. Ça va compter trois images pour vous dire, puisqu'il y a trois choses bien distinctes.
D'accord.
Donc pour nous, de réaliser ce nombre d'images qu'on va voir en passant dans telle direction, c'est impossible. Peut-être pour les aviateurs, c'est un peu mieux, mais en fait quand même, ça reste assez délicat. Et elles vont se donner une troisième information lors de ces danses, c'est la qualité, on va dire, de cet endroit. Est-ce que c'est très intéressant ou moyennement intéressant, de façon à ce que les autres puissent comparer et écouter celle qui dit, c'est là, c'est le plus... Enfin, elles vont aller vers là où c'est le plus intéressant pour être efficaces.
Et on arrive à traduire ces trois informations par l'observation de leur danse.
Alors là, je pourrais vous dire avec précision le cap à prendre, la direction dans laquelle elles partent. Après, comme je vous disais, la distance
Et complexe.
L'attractivité. Alors, en comparant deux danses, on va pouvoir laquelle est la mieux, mais après, je ne pourrais pas vraiment le qualifier, le quantifier. Ça, c'est... je ne suis pas encore abeille.
Et vous découvrez encore des comportements des abeilles ou vous les connaissez vraiment par cœur ?
Oh, il ne faut jamais dire ça, puisque ce n'est pas une science exacte. Il y a toujours... Alors, plus on les connaît, plus on fait des bonnes hypothèses. Après, dans la pratique, on s'aperçoit que régulièrement, c'est pas ce qu'on croyait. Voilà, on a une meilleure lecture, mais après, on ne lira jamais tout, et heureusement. Sinon, ça deviendrait ennuyeux.
D'accord, je vous propose d'écouter une seconde musique, mais dans un instant, on va juste, avant de nous quitter, parler un petit peu de l'évolution peut-être de l'apiculture et du regard qu'on a sur les abeilles, et puis aussi des populations tout simplement d'abeilles dans le coin. Et je vous propose d'avoir une deuxième musique qui s'appelle l'abeille, cette fois-ci, qui est la percussion africaine. On parlait tout à l'heure des ruches en Afrique qui sont dans les arbres la plupart du temps, c'est ça? Il n'y en a pas au sol?
Non, la méthode traditionnelle, c'est vraiment...
Là-haut,
c'est
perché.
La particularité africaine, c'est de les installer dans les arbres.
Alors,
il y a quand même une logique, c'est que l'apiculteur va les installer vides et ensuite va faire un tour de magie pour que les abeilles viennent s'y installer.
Ah oui.
Il va les préparer un peu avec certaines fumées aussi, enfin, il a sa recette. C'est quand même dans les gros arbres que les abeilles ont des chances de trouver des troncs d'arbres creux. Donc, il y a cette très bonne raison. Certains vont vous dire que c'est... pour les voleurs, mais pour les mettre à l'abri des voleurs, mais moi, j'y crois pas.
Ah oui, et puis c'est pas évident de monter, récolter là-haut dans l'arbre en plus.
Surtout
c'est une difficulté supplémentaire.
Surtout que des fois, c'est sur des énormes baobabs à des hauteurs assez incroyables.
Ah oui.
Et donc, ils ont des paniers, des cordes, et d'autant plus qu'ils y vont la nuit, parce qu'ils ont une technique
très
particulière aussi. C'est pas pour les déranger, c'est qu'elles sont toutes à l'intérieur, donc il n'y a plus ce vol d'abeilles tout autour de la ruche. Et sa technique, ça va être, avec une torche, de les
enfumer à
de les pousser
un petit peu. Ah oui.
À l'intérieur, au fond de la ruche, de façon à prélever les rayons qu'il y a devant, une fois qu'ils sont vidés de leurs abeilles, et puis de remettre un coup de feu régulièrement pour les repousser au fond.
Des techniques vraiment impressionnantes. On écoute Jonathan Zerr, l'abeille. vous êtes toujours à l'écoute de Radiola, c'est la belle saison sur le 106.6 FM à Dieulefi et sur l'appli Radiola partout ailleurs. Je suis en bonne compagnie avec Luc Rossetti, un puits de savoir sur les ruches et les abeilles. Le musée de l'abeille vivante, c'est le nom de votre musée, Luc, à Comps. Vous fabriquez encore du miel, bien sûr, que l'on peut goûter chez vous, hein, je crois, lors de notre visite. Vous avez donc encore des ruchers en activité. Comment se portent les abeilles à Comps depuis quelques années ?
Écoutez, elle se comporte fort bien à Comps, puisqu'on a la chance d'être sur des environnements assez protégés. Alors, c'est vrai que par ici, on a quand même cette possibilité, malheureusement, j'allais dire, d'éviter l'agriculture, puisque...
Intensive.
Et surtout l'agriculture traitée, quoi.
Est-ce que les pratiques et la façon justement de considérer, alors plutôt les pratiques agricoles et la façon de considérer les abeilles ont un peu changé ? Je parle vraiment là des mentalités, selon vous.
Je pense qu'il n'y a, pas vraiment d'accord entre agriculteurs, apiculteurs. Chacun, chacun indépendamment fait ce qu'il a à faire pour son activité. Enfin, l'agriculture n'en tient pas particulièrement compte. Elle fait ce qu'elle a à faire pour sa production.
La solution, c'est peut-être deux endroits, du coup, réserver les plaines, enfin, s'éloigner des plaines, en tout cas, pour faire du miel ou...
À moi, c'est ma politique. Après, l'agriculture a besoin d'abeilles. Il y a même de... On en arrive à une situation dramatique où l'abeille peut être jetable, au sens, on traite, on élimine tous les insectes. Comme il n'y a plus d'insectes, pollinisateurs, on va mettre des abeilles qu'on envoie au casse-pipe à polliniser, sinon on n'a pas de récolte. Donc ça va être le cas de l'amande américaine.
De l'amande américaine ?
De l'amande américaine, exemple, à boycotter pour cette raison-là.
D'accord, parce que pour continuer à polliniser les amandes, on envoie
des camions de ruche au casse-pipe.
Ah oui, d'accord. Ça, ce sont des pratiques qu'on trouve dans plusieurs pays.
On va le trouver partout, de toute façon, selon les produits. S'il n'y a pas de pollinisation, il n'y a pas de production. Donc, si on a un environnement trop contaminé, la présence d'abeilles, elle est misérable. Donc, il va falloir en amener d'autres. Mmh. Et on ne les amène pas dans des beaux endroits pour leur bonne santé, dans ces cas-là, quoi.
C'est ça, on les utilise, en fait.
Un peu de l'abeille jetable, quoi, j'ai envie de dire. Voilà.
Quels sont les pesticides, les insecticides les plus nocifs pour les abeilles ?
Les néonicotinoïdes sont très connus pour ça, puisque... il y a eu plein d'études qui ont permis de faire traîner, de continuer à les utiliser, puisque c'est un produit qui ne les tue pas, c'est seulement que ça leur bousille le système nerveux, qu'elles perdent la mémoire, qu'elles ne retrouvent pas leur ruche. Donc, par contre, elle est toujours vivante, mais si elle ne retrouve pas sa ruche, c'est la ruche qui meurt.
Et c'est sur cette distinction-là que se sont faites les exceptions à la loi européenne sur l'utilisation des néonicotinoïdes ?
Oh, ça, je crois pas, parce que ça, c'était le début, on va dire, pour dire, regardez, alors selon les chercheurs qui connaissaient bien le sujet, pouvaient justement trouver des protocoles pour montrer que ça ne la tuait pas.
D'accord.
On va dire. Aujourd'hui, non, je crois que la situation est très claire. Tout le monde sait que il ne faut pas en utiliser. L'Europe les interdit. Et le gouvernement français a trouvé moyen quand même de se dire qu'il faudrait quand même trouver quelques dérogations. Alors, c'est peut-être un peu sous pression des agriculteurs ou pour les contenter, mais je crois qu'on ne peut pas se permettre de faire ça. En 50 ans, on a déjà détruit 80% des insectes. Si on continue à se dire on peut encore avoir des dérogations comme ça, je ne sais pas où on ne va pas aller très loin.
C'est pour ça aussi qu'il est important de transmettre aux jeunes générations peut-être la valeur en fait de ces abeilles et du lien aux abeilles.
Alors j'ai envie de dire qu'il faut aller plus loin que ça, beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que l'abeille, c'est... Et moi, je crois plutôt qu'elle va nous survivre. C'est pas puisque il y a des gens comme moi vont faire que les abeilles se reproduisent d'autant plus qu'il y a une présence. Donc elle n'est pas très menacée par rapport à toutes les abeilles sauvages. On a 1000 espèces d'abeilles en France, 2000 en Europe, Et c'est elles qui vont, dont on ne s'occupe pas, qui justement disparaissent et pour lesquelles on ne fait rien. Donc c'est plus pour elles, pour les autres abeilles, que c'est plus dangereux.
Oui,
plus et pour tous les insectes en général, enfin pour toute la biodiversité en général.
Oui, c'est surtout la
général,
disparition de la biodiversité de façon large.
Voilà, c'est beaucoup plus inquiétant.
Après, vous avez ouvert votre musée en 2007, vous recevez beaucoup de public, j'imagine que vous les accompagnez, vous expliquez aussi les ruches.
C'est ce qui fait que ça intéresse beaucoup les gens, c'est quand même les commentaires de savoir qui est qui fait quoi dans une ruche. Parce que sinon, si on la regarde tout seul, je crois qu'on passe à côté des trois quarts des choses.
Et c'est important quand même cette transmission, pouvoir expliquer aux gens, leur transmettre la valeur de cette biodiversité. Certains, j'imagine, débarquent.
Oui, il y a de tout. Alors j'ai même vu en valeur cette année le frelon, parce que c'est il n'a pas beaucoup la cote, on va
dire.
Non,
il n'a pas beaucoup la cote, le frelon.
Ben, il y en a peu qui l'aiment. Alors que, justement, alors j'ai un joli nid que quelqu'un m'a offert, avec l'historique, etc. Mais c'est surtout, c'est un très bon exemple pour faire comprendre qu'on a besoin de tout le monde. Puisque dans pas longtemps, tout le monde va aimer le frelon. Il suffit de savoir que c'est grâce à lui qu'on a du vin.
Ah bon ?
Et ça, en France, je pense que ça marque un peu les esprits. Alors,
comment il participe à la pollinisation des...
Ah non, absolument pas. Lui, il n'est pas végétarien comme l'abeille. Il est plutôt carnivore, mais il aime aussi le sucre. Il aime notamment le raisin.
Oui.
À l'automne, vous le verrez sur toutes les tonnelles, etc. C'est lui, en fait, qui va préserver les ferments qui vont permettre de vinifier, en les gardant avec lui, en les ramenant dans son nid et en les ramenant l'année d'après.
D'accord.
Donc c'est grâce à lui qu'on a pu avoir... Alors aujourd'hui, en se débrouillant, parce qu'on a des banques de tous ces ferments, mais seulement il n'existerait pas s'il n'y avait pas eu le frelon.
D'accord.
Donc c'est pour ça que je crois que c'est une découverte qui est relativement récente. Il y a plein de choses qu'on ignore comme ça, justement, d'autres insectes. Et avant de les écraser, il faut se dire que peut-être... Ils sont comme le frelon.
Et la biodiversité est là et il faut la protéger. Je vous remercie, monsieur Rossetti, d'être venu partager votre passion des abeilles et des ruches. Peut-être, donc on rappelle le musée de l'abeille vivante et des ruches du monde qui est ouvert tout l'été jusqu'à la fin août, c'est ça ?
C'est ça.
Tous les jours, de 14h30 à 19h. Bon, il y a les infos qui sont sur le site internet. Ruches du monde, ruches au pluriel.com. Oui.
Il y a aussi des mardis et jeudis matin où je propose des visites à des familles avec des enfants. Et je fais une visite plutôt pour les enfants, au sens où on va beaucoup observer les ruches vitrées. Ils feront une petite bougie en cire d'abeille à la fin et une dégustation de miel.
Voilà, une visite un peu plus pratico-pratique, un peu moins historique.
Voilà.
merci beaucoup d'être venu. Belle journée sur Radio La.